Eh, dis, pour une fois, on pourrait pas changer de radio, en écouter une autre?
Non, Mimi, on n'écoute pas une autre radio, on écoute l'autre radio.
Quand on parle de festival, on aime bien évoquer directement les grands noms qui font tout de suite tilt, qui nous évoquent tout de suite quelque chose. Eh bien oui, on les connaît tous, ils ont percé. Mais avant d'arriver là où ils sont, sachez que pour le plus grand nombre de ces artistes qui sont aujourd'hui connus, ils ont connu toute une période de galère, justement, on peut le dire comme ça, pour réussir à se faire connaître, à être diffusés ou tout simplement pour être accompagnés dans la création de leur projet. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui de recevoir dans ce grand entretien une partie de l'équipe du festival L'Arbre Bavard, qui propose cette année sa 4e édition le 2, 3 et 4 août à Andouillé. Alors j'ai à mes côtés aujourd'hui Manon Savary, Alice Maboulet et Victorine Clavreul. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. On échange dans quelques instants et tout au long de cette émission sur ce festival et cette prochaine édition qui aura lieu donc en août. Bienvenue à vous, amis auditeuristes. Vous écoutez l'AJT du local qui se terminera comme chaque vendredi avec l'agenda culturel de la semaine. Mais je le disais, je suis en très bonne compagnie. Aujourd'hui, on va passer un très très bon moment puisque je suis avec Manon Savary, chargée de communication du festival L'Arbre Bavard, Alice Maboulet qui est à l'initiative du festival, qui fait aussi partie de l'administration et des partenariats du festival, et Victorine Clavreul, responsable du pôle plutôt scénographie et décoration ainsi que graphiste du festival. Est-ce que j'ai tout bon là pour le moment?
Super,
ça va. Donc cette année, on va parler de la 4e édition du festival, je le disais tout à l'heure, qui a lieu le 2, 3 et 4 août. Et alors, quand on parle du festival L'Arbre Bavard, on parle de micro-festival. Qu'est-ce qu'on entend par là, par micro-festival ?
Alors, un micro-festival, c'est un terme qu'on a repris, en fait, qu'on a entendu au BIST de Nantes, qui est un instant culturel qui regroupe plein d'associations qui viennent un peu brainstormer autour de la culture. Et il y avait un festival dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui vient du sud de la France et qui employait ce terme de micro-festival pour parler d'une volonté dans la production de leur événement et dans la forme de leur événement, qui était de rester à une échelle humaine et une échelle locale pour justement avoir un événement qui serait durable, viable en termes d'environnement notamment. Voilà. Donc un événement qui ne va pas dépasser une certaine jauge de public, qui va aussi se limiter dans les fournisseurs qu'ils vont avoir en circuit court, etc. Donc nous, c'est ce qu'on revendique aussi à L'Arbre Bavard, c'est-à-dire qu'on a une jauge assez limitée. On accueille à peu près 600 spectateurs par jour sur le week-end. Et en fait, ça nous permet aussi de réduire l'impact environnemental que l'événement peut avoir, puisqu'un événement, comme on le sait, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée pour plein de raisons différentes. Et donc, moins il y a de monde, moins il y a d'énergie dépensée. Voilà.
C'est vrai, effectivement. Et alors, Alice May, j'ai envie peut-être de rester avec toi, puisque tu es là depuis le tout début du festival, finalement. Tu es aussi à l'origine, à l'initiative, je le disais tout à l'heure, de la création de ce festival. Comment cette idée est venue? À partir de valeurs, j'imagine, on en parlera encore ensuite, mais il y a des très belles valeurs, un grand soutien des artistes sur la scène émergente et dans le processus même de création, en tout cas dans l'idée du festival. Comment ça a démarré?
Eh ben, ça a démarré. Alors, c'est marrant parce que ça a démarré à un moment qui pourrait paraître un peu pas très logique, mais ça a démarré pendant le Covid. Donc, en 2020. En fait, en 2020, pour une partie de l'équipe originelle du festival, on va dire, on était en études au Conservatoire du Mans. Parce que la plupart d'entre nous, on a fait des études artistiques et notamment des études théâtrales. Et donc, on était au sein de ce conservatoire quand il y a eu le premier confinement et on s'est retrouvés à préparer nos projets de fin d'études, qui étaient des spectacles en fait qu'on préparait, confinés, et à ne pas savoir si on pourrait les jouer à la fin de l'année ou pas. Et donc, quand on a pu reprendre les cours en mai, on a été un des seuls conservatoires en France d'ailleurs à réouvrir à la suite du premier confinement, et s'est posé la question de nos projets et de si on allait pouvoir les représenter. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de débats sur comment on peut le faire, puisqu'on nous disait il y a trop de contraintes sanitaires, on va pas pouvoir le faire. Et donc il y avait la contrainte de jauge, de se dire on peut pas rassembler trop de personnes au même endroit. Donc bah voilà, moi je me suis dit bah si c'est la jauge, on va jouer devant 10 personnes, mais on va jouer genre 10 fois devant 10 personnes, et comme ça on aura joué devant 100 personnes. Et il y avait la question des espaces confinés, donc de pas pouvoir jouer en intérieur non plus. Donc pareil, je me suis dit, bah, on va jouer en extérieur. Voilà, toujours avoir envie de trouver une solution quand même pour ces projets. Et il se trouve que mes parents, qui habitent ici en Mayenne à Andouillé, ont un terrain qui a beaucoup servi pour accueillir plein de fêtes en tout genre, et qui là me paraissait un petit peu tout désigné pour accueillir aussi ces projets de fin d'année. Et donc c'est parti de là, c'était une envie de représenter nos projets d'élèves. Voilà, pour un public, et pour continuer à jouer, en fait, faire ce qui avait du sens pour nous, qui était de le faire pour du public et pas juste pour nous. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, j'ai demandé un peu des conseils à droite à gauche pour pouvoir faire ça, et je me suis dit, en fait, ça sera un petit festival. Mmh. Et donc, on m'a dit, Philippe Valpin, qui était notre professeur à l'époque, m'a conseillé de m'entourer dans un premier temps. Et donc, c'est la première chose que j'ai faite, en fait. Donc, j'ai vraiment rien fait toute seule, en fait. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai réuni des gens. J'ai dit, est-ce que vous voulez faire ça avec moi? Et ils ont dit oui. Et donc, ça, c'était en 2020, c'était le tout début. Et il se trouve qu'à cette époque, en Mayenne, il y a eu une grosse vague de Covid en août, en 2020, où devait avoir lieu la première édition. Et donc, on n'a pas pu faire cette première édition. Et ça a été un peu un mal pour un bien pour le festival, puisque ce qui devait être un peu des petites représentations entre copains a eu en fait un an pour se transformer et se penser autrement. Et donc, on a fini par vraiment pouvoir organiser un vrai festival, inviter d'autres artistes, faire un appel à projet, tout ça. Et ça a donné la première édition de 2021, du coup.
Et même, du coup, je crois que dès la première édition, justement, lors de ces appels à projet, il y a déjà eu énormément de candidatures. Mmh. Les artistes ont vraiment répondu présent, puisque dès le début, finalement, il y avait l'idée de soutenir la scène émergente, ces artistes qui débutent et qui proposent finalement les premiers projets. Et donc, c'est aussi, ça permet aussi de voir que, bah, effectivement, il y a un fossé encore dans cette période-là de la création, du lancement de carrière, peut-être. Il y a très peu de soutien, c'est compliqué, ce que je pouvais dire en début d'émission.
Ouais, complètement. Bah, en fait, c'est parti aussi d'un constat qu'on a fait nous, en tant que jeunes artistes, qui était que bah, pour jouer quelque part, pour pouvoir se professionnaliser, c'était compliqué. Et aussi du constat que les institutions appellent émergence ce que nous on considère déjà comme des professionnels, en fait. Donc il y avait effectivement une espèce d'absence, de trou, de vide à l'endroit de notre émergence à nous, qui était qu'étions élèves en école ou sortis d'école, mais pas encore structurés, pas encore soutenus par les institutions. Et on définit cette notion-là d'émergence au festival en se rapprochant de la définition que fait la Fédération des pirates du spectacle vivant, qui a écrit un manifeste et qui parle, le manifeste des immergés, et donc qui parle d'émergence en désignant des structures qui ne sont pas encore repérées et accompagnées par les institutions, notamment. Voilà. Donc nous, c'est vraiment la définition sur laquelle on se base, et on s'est rendu compte, effectivement, dès la première édition, il y avait une cinquantaine de candidatures, alors que le festival ne payait pas encore les artistes, n'était pas du tout connu par les artistes ni par les acteurs locaux. Et dès la deuxième année, on a eu un bond assez considérable, parce qu'on a eu, on est passé de 48 candidatures à... alors Manon, si tu veux m'aider pour les chiffres, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était passé à une centaine de candidatures directement.
Oui, une centaine de candidatures. Et maintenant, en tout cas cette année, pour la quatrième édition, l'appel à projet, il a reçu à peu près plus de 400 réponses. Et pour nous, ça témoigne vraiment de l'envie et du besoin des jeunes artistes d'avoir ce genre d'espace de représentation et de création, et aussi de rencontres, parce que comme c'est un festival, ça a l'avantage aussi de réunir de nombreux et nombreux artistes. Et sur le festival, on rassemble environ entre 40 et 60 artistes chaque année, et c'est assez chouette aussi de pouvoir se rencontrer, de voir le travail des autres. Et on essaie aussi d'organiser au sein du festival des espaces de rencontres et de débats pour savoir un peu comment est-ce que chacun se démerde dans ce monde et de la création, quoi, et de la jeune création surtout.
Oui, l'idée, c'est aussi de créer, alors je ne sais pas si c'est déjà en place, vous allez pouvoir nous le dire, mais de créer vraiment un accompagnement même. Donc là, c'est aussi un temps de rencontre, vous venez de nous le dire, l'idée de créer un réseau, Mais le festival a aussi pour projet de soutenir directement ces artistes et dans l'accompagnement finalement de leur projet.
Oui, complètement. En fait, on essaye de plus en plus de construire tout ça autour du festival en lui-même, qui est déjà une proposition voilà, de représentation, de visibilité, mais qui est en fait assez limitée. Et on construit pour ça notamment des partenariats, beaucoup avec les acteurs mayennais, les acteurs culturels mayennais, et on a déjà pu effectuer ces partenariats depuis un ou deux ans, notamment avec la saison culturelle de Lerné, où en fait on a mis en place un dispositif de médiation, programmation, où on invite des spectatrices à faire partie d'un comité de programmation qui vient au festival et qui sélectionne, après avoir visionné tous les spectacles, qui sélectionne un spectacle qui joue à l'ouverture de saison, de la saison culturelle de Lerné. Donc l'année dernière, c'était le spectacle Houle par la compagnie Cette fois la langue. Et c'était un chouette moment et ça sera renouvelé cette année. Et cette année, on a une nouveauté qui est mise en place depuis... Ça fait un bon moment qu'on est en discussion avec le Festival des Nuits de la Mayenne pour, et Coralie Cavan qui programme ce festival pour mettre en place ce dispositif. Et on est hyper contents parce que cette année, ça va pouvoir se faire. Et donc, l'idée, c'est qu'on a choisi dans la programmation du festival un spectacle qui va pouvoir jouer en première partie, en tout cas en date associée avec un des spectacles du Festival des Nuits de la Mayenne qui sera juste après le festival, donc le 5 et le 6 août.
Effectivement, on a reçu cette semaine justement Coralie Cavan, début de semaine, qui nous a parlé effectivement d'une date un peu surprise comme ça, ouais. qui vient d'être vraiment décidée, mais effectivement on garde la surprise pour le moment.
On garde la surprise, mais ça va être super.
Ouais, le spectacle est choisi mais pas encore annoncé, donc
voilà, c'est
on
ça.
Sait que ça va être chouette.
Exactement.
Et alors, si on parle vraiment du festival, il y a quatre espaces scéniques. Comment, cette année, est-ce qu'il y a des modifications? Pour l'instant, quatre espaces scéniques, ça reste comme l'année dernière?
Oui, c'est ça. En fait, on a conservé la formule un peu de la première édition qui marche super bien et qui crée un peu un festival assez à taille humaine et très, très, très chaleureux. Et donc, on a ces quatre espaces scéniques sur lesquels s'enchaînent plusieurs spectacles tout au long de... l'après-midi, en tout cas pour le samedi et le dimanche. C'est des spectacles qui jouent tout l'après-midi. On a 9 spectacles, dont une balade comptée. Et chaque proposition joue 2 fois par jour. Ce qui fait qu'en fait, il y a des spectacles qui commencent quasiment toutes les 20 minutes. Quoi. Donc c'est assez chouette de pouvoir assister à ça. Ça crée aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de vie sur le site. Donc voilà pour la proposition de samedi et du dimanche. Et cette année, on ouvre aussi une nouveauté parce qu'on a un vendredi soir qu'on a construit comme une soirée d'inauguration et aussi une soirée théâtrale avec un spectacle qui sera un peu plus long que ce qu'on pourra voir le week-end, parce que le week-end, c'est plutôt des formes entre 30 et 45 minutes pour pouvoir en voir beaucoup, pour que ça s'enchaîne. Et là, ça sera vraiment plus soirée théâtre avec un spectacle d'environ 1h20, 1h30 qui... Et on peut l'annoncer, la compagnie Notre Insouciance. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Jouir, qui sera très beau et très plein d'énergie aussi, comme ils ont l'habitude. C'est une compagnie qu'on a aussi eu la chance d'accueillir sur 2 autres éditions. Et donc ça fait sens aussi pour nous de les accompagner là sur cette soirée d'ouverture. Voilà. Et donc là, du coup, ça sera vraiment une représentation. On ne les reverra pas pendant le week-end après.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout encore le festival, on peut le dire, il y a une diversité des propositions. Donc, il y a effectivement du théâtre, il y a des parties musicales, il y avait de la danse également l'année passée, les arts circassiens, on peut le dire. Est-ce que cette année, il y a encore cette très belle diversité qui sera proposée?
Oui, absolument. On est donc toujours sur une majeure, donc spectacle vivant, donc c'est théâtre, musique, danse, cirque. Là, on a beaucoup de spectacles donc de théâtre, on a un spectacle de cirque et un spectacle de danse, mais on a aussi des propositions qui sont un peu hybrides. Et d'ailleurs, quand on reçoit les projets, les dossiers dans l'appel à projets, on voit que les créateurs et créatrices émergents aiment beaucoup... jouer avec les codes théâtre ou faire... Du coup, on a beaucoup de propositions de performances, même de performances radiophoniques. Là, on a une performance un peu radiophonique et dansée aussi. Donc ouais, des spectacles qui ne rentrent pas forcément dans des étiquettes précises, mais qui sont des très beaux objets artistiques.
Et alors, quand vous lancez cet appel à projet, est-ce que vous avez des attentes en termes de thématiques ou est-ce que finalement, c'est totalement libre et vous choisissez à partir des propositions? Comment ce choix se fait?
Et ben justement, non, on n'a pas tellement d'attentes. C'est aussi même quelque chose qu'on revendique, qui est de limiter le plus possible les critères de sélection, parce qu'on voit beaucoup, ça existe en fait beaucoup d'appels à projets pour les spectacles émergents, sauf que c'est souvent des appels à projets qui ont énormément de conditions à remplir et qui du coup deviennent un petit peu contradictoires avec le public auquel ils s'adressent, puisque souvent, quand on est émergent, on n'a pas les moyens de remplir toutes ces conditions, ou alors ça limite beaucoup les personnes qui peuvent y prétendre. Ça va être des conditions, par exemple, de nombre de représentations maximales et minimums, de plein de choses comme ça. Donc nous, on essaye de limiter ça au maximum. Et donc, en fait, les seules conditions qui s'appliquent, c'est des conditions que je qualifierais de techniques, qui sont le fait que notre site est en plein air. Donc il faut forcément que la représentation soit adaptable au plein air en plein jour. Et la durée également des représentations, puisque la forme même du festival nous impose d'avoir des formes assez courtes qui ne vont pas pouvoir dépasser 50 minutes de spectacle pour l'équilibre en fait de la programmation. Mais au-delà de ça, on essaie vraiment de ne pas se limiter ni en termes de, on va dire, d'expérience des équipes artistiques. On peut avoir des équipes qui sont vraiment à leur premier spectacle, qui sont encore en école. C'est arrivé qu'on ait programmé des spectacles d'élèves et qui étaient aussi qualitatifs que les autres. Et ça peut être aussi des compagnies qui sont déjà un peu plus implantées, qui commencent déjà à réussir à vendre un peu leurs spectacles. Voilà. Donc on essaye d'avoir cet équilibre-là, si j'oublie rien.
Et pour sélectionner les spectacles, quand vous recevez un projet, vous le recevez sous quelle forme? Est-ce qu'il y a des extraits? Est-ce que c'est un dossier?
On laisse cette forme assez libre, en tout cas, de réponse. En tout cas, on demande à ce que les personnes nous envoient le maximum d'éléments qu'elles ont, enfin tout ce qu'ils et elles veulent nous envoyer. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui nous font des vidéos pour nous expliquer des audios, des choses comme ça, c'est assez chouette. Mais après, la forme classique, c'est généralement, il y a souvent un dossier ou au moins un petit document qui présente soit le projet, soit le spectacle. Et avec des petits mails très gentils.
Ça arrive qu'on n'ait pas du tout de... Ça arrive que les gens créent le spectacle pour le festival aussi, et que donc ils envoient un dossier avec un spectacle qui n'est pas encore créé. Donc on n'a pas forcément d'image ou de vidéo du projet. Donc là, on programme vraiment à l'aveugle, on pourrait dire. Mais voilà, donc il y a vraiment tout. Ça arrive, ça aussi.
Partir d'intention, de projection.
D'intention, de projection visuelle. Il y en a qui font des mood boards pour leurs inspirations visuelles, quoi. Donc c'est à nous de nous projeter aussi.
Alors les filles, je vous propose qu'on continue dans quelques instants ensemble à parler du festival. On va aussi parler de la partie décoration du festival, parce que les bénévoles en ce moment, je crois savoir, sont justement bien en train de bosser ça. Et puis peut-être de parler de quelques coups de cœur de cette programmation qui n'est pas encore annoncée. On va avoir quelques exclusivités aujourd'hui. Et donc on se retrouve juste après Oscar Les Vacances, on écoute Garçon.
On m'a dit que j'étais un garçon.
C'est vrai.
On m'a dit que pour être un garçon,
il fallait
taper, taper, taper sur les filles et sur les ballons, taper, taper l'incruste. Pas la discussion, jamais. Taper des poings sur la table et sur les fils de pion, montrer mes poils de jambes. Mais pas mes émotions, jamais. Briller, briller dans la fête et la compétition, briller, briller dans la tête et dans les opinions. Mais moi, le soir avec mes cousines, je mettais des colliers de perles et des barésie gloss. Paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des robes dentelles, du rouge dans mon journal intime. Quand les parents partaient, c'était le défilé gloss. Paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des robes dentelles. Sauver, sauver toutes les filles des mauvais garçons, garçons, jamais, 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 homme ne pleure de
la situation. Jamais, 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 homme ne doute de sa bonne position. Jamais, 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 homme n'écoute ce qu'il y a au fond. Mais moi, le soir avec mes cousines, je mettais des colliers de perles et des barésies, gloss, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette et des robes dentelles, du rouge dans mon journal intime. Quand les parents partaient, c'était le défilé, gloss, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette et des robes dentelles.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et donc, on a commencé cette émission avec une partie de l'équipe du Festival L'Arbre Bavard. À mes côtés aujourd'hui, Manon Savary, Alice Maboulet et Victorine Claverol. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, on a parlé un petit peu de l'état d'esprit de ce festival, de comment il a été créé dans cette première partie d'émission. Et donc, on a dit quelques mots quand même sur une équipe de bénévoles qui, en ce moment, travaille dur, dur, dur pour toute la mise en place, la décoration du festival. Victorine, c'est toi qui t'occupes un peu de cette partie-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui est en train de se préparer ?
Alors, il se prépare beaucoup de choses. cette année, depuis l'année dernière, je suis entourée d'une équipe de scénographes. Mmh. Donc, ils sont quatre et il y a une graphiste qui nous a rejoint, ainsi qu'une stagiaire. Donc, on est une belle équipe. Et... il y a des éléments de scénographie qui vont être créés pendant les semaines de prépa du festival, avec des surprises. On avait construit l'année dernière un totem au milieu de notre grand champ, qu'on pourrait appeler finalement l'arbre bavard, parce que c'était un totem qui parlait. Et là, cette année, il va être reconstruit, il va être encore plus grandiose. Donc ça, c'est un des projets qui se prépare. Et plein de petites surprises lumineuses, où on essaie de travailler... autour du site de l'Anjouère, donc de parler de la faune et de la flore du site, donc et puis de même d'andouiller, puisque avec la balade comté qui traverse tous les chemins creux autour de notre site de festival, on a vraiment cette nature luxuriante et donc c'est, enfin, il y a beaucoup de choses à exploiter autour de ça. On essaie d'amener un peu de magie en plus dans le site, en plus de tous les spectacles qui sont déjà géniaux. Et donc, le week-end dernier et le week-end d'avant, on a commencé à travailler avec des bénévoles, surtout des membres actifs de l'organisation, mais de toute façon, on est tous bénévoles. Donc c'était très chouette, on a bien avancé. On a peint, on a construit des tables, des assises, enfin... Plein de choses super chouettes.
Et alors, j'ai des échos, moi, de bénévoles, justement, qui sont actuellement sur le terrain. Et on me dit que l'ambiance, elle est particulièrement bienveillante. Enfin, il y a vraiment une solidarité, un très bel état d'esprit, même dans les coulisses de ce festival.
Bah oui, on essaie. Puis on est quand même tous des copains et des copines. Donc, il y a quand même une chouette ambiance. On s'entend bien quand même.
Ouais, et puis la particularité de ce festival, je dirais, c'est aussi la moyenne d'âge quand même,
ouais,
qui est très jeune, de par l'équipe d'organisation, enfin tous les gens qui sont un peu investis à l'année dans le festival, on est tous dans la vingtaine, quoi, on va dire ça comme ça. Et je pense que, enfin, moi j'aime bien dire que ce festival, c'est nous qui créons pour nous notre monde de demain, la culture de demain, enfin en tout cas à l'image dont on aimerait la voir. Mmh. Et du coup, je pense que ça se ressent aussi dans les relations humaines qu'on essaie de mettre en place sur le festival. Voilà, on essaye en tout cas qu'il y ait cette ouverture, cette bienveillance. Et puis d'avoir un peu de fun, quoi, de s'amuser.
Et ce qu'on a pu dire ensemble pendant la pause musicale, c'est que finalement, toutes ces attentes du monde futur, toutes ces préoccupations actuelles, ça se ressent aussi dans les thématiques et dans les propositions de cette scène émergente.
Mmh, ouais, c'est vrai que dans l'appel à projet, on voit énormément de propositions et ça fait comme un espèce de condensé des préoccupations ou des envies des artistes émergents et émergentes. Et ça se ressent aussi forcément dans les choix de programmation qu'on fait. Manon, je ne sais pas si...
Oui, carrément. Bah, c'est sûr qu'on a par exemple énormément de spectacles qui parlent de l'identité ou... ouais, enfin, de vraiment... Enfin, c'est vraiment des thématiques qui reviennent beaucoup. Et là, bah, pour...
En force aussi pour cette nouvelle édition.
Ouais, carrément, en force pour cette nouvelle édition. Et ouais, non, on va avoir plein de choses encore, plein de belles choses cette année pour teaser un peu. On a une super reprise un peu déjantée de l'Iliade, donc qui est complètement déconstruit et remise au goût du jour. On a... Un très beau seul en scène, un peu décalé aussi, justement, qui parle d'identité plutôt queer et sur un très beau récit personnel, mais en même temps un peu ch'tarbé. Et puis, on a des propositions plus visuelles. On a une proposition qui est hyper poétique de spectacle de marionnettes qui raconte un repas d'anniversaire un peu spécial et qui travaille notamment autour des travaux de Sophie Kahl sur le repas d'anniversaire. Donc ça va être assez beau. Mmh. Et oui, tu parlais aussi tout à l'heure, Alisma, de ces créations qui sont créées à l'école. Et on a aussi une proposition de cirque, qui sont deux circassiennes qui sont sorties l'année dernière d'une école de cirque à Châlons en Champagne. Et en fait, ce spectacle-là, du coup, c'est le spectacle qu'elle crée pour sortir de l'école et pour se lancer dans la vie professionnelle. Et elles sont deux circassiennes à évoluer sur une plateforme de 1 mètre carré suspendue dans les airs. Mmh. Et en fait, c'est une plateforme qui a un nouvel agrès, en fait, qu'elles ont créé pendant l'école. Et donc, c'est trop chouette aussi de pouvoir... de voir toute l'inventivité et la créativité de ces artistes-là et de pouvoir accueillir ça au festival.
Ouais. On parlait de nouveaux récits et de nouvelles formes. Finalement, s'intéresser à la scène émergente, c'est aussi voilà, découvrir un nouveau discours, un discours probablement de la jeunesse. Je ne sais pas si dans ces propositions-là, on a des tranches d'âge forcément. Les jeunes artistes ne sont pas forcément des jeunes personnes, j'imagine.
Oui, c'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'on a quand même une grosse majorité de jeunes, mais ça ne veut pas dire que on peut aussi se lancer dans le théâtre et être émergent, enfin ou dans les arts et être émergent en étant plus âgé. Il y a des reconversions ou des choses qui existent. Et là, cette année, je pense qu'on a on est entre 25 et 35 ans, je pense, un truc comme
ouais,
ça.
Je pense.
Donc c'est quand même, ça reste jeune. Assez jeune, oui. Quand même, vraiment.
Ça reste très jeune. Mais on a des propositions dans l'appel à projet de personnes plus âgées et c'est un truc qu'on revendique et qu'on se répète régulièrement quand on fait les programmations, c'est qu'effectivement l'émergence, c'est pas conditionné à une génération, à une tranche d'âge. Mmh. Donc on fait toujours attention à ça. Mais c'est vrai que quand même, par défaut, il y a beaucoup de jeunesse. Mmh.
Et donc des nouveaux récits, des nouvelles formes. On a parlé un petit peu de cette programmation. En ce qui concerne l'organisation, vous recherchez encore des bénévoles?
Oui, tout à fait. On a besoin de bénévoles sur la semaine de préparation qui aura lieu du lundi 29 juillet jusqu'au vendredi 2 août. Et puis aussi sur le week-end et sur le démontage, parce que c'est souvent... au démontage qu'on a moins de main-d'œuvre. Mais cette année, en fait, on a un peu réduit la préparation du festival. D'habitude, on étalait ça sur 2 semaines. Ça faisait un peu une espèce de géante colonie de vacances. Mais c'est vrai que c'est difficile de mobiliser autant de gens sur 2 semaines. Donc cette année, voilà, pour des questions aussi de disponibilité personnelle et tout ça, on a un peu réduit. Mais donc ça veut dire qu'on aura plein de travail pendant 1 semaine. Donc plus on est de monde, plus ça va être efficace. Et puis surtout, plus on va s'amuser, quoi.
Mmh. Oui, et puis c'est souvent des moments assez chouettes. Enfin, tu parles de quoi? Mais il y a vraiment une ambiance où on est ensemble, on vit sur le site et on travaille tous ensemble pour un même projet avec ce truc en ligne de mire à la fin de la semaine. On ouvre le festival et ça va être super.
On a des super soirées bénévoles, ouais, une soirée karaoké.
L'ambiance est très très bonne en général. Et alors, si on veut rejoindre cette équipe bénévole, on vous contacte comment? Via le site internet? Il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents?
Oui, c'est ça. En fait, il y a un formulaire à remplir qui est assez simple, juste pour dire les disponibilités et vos envies aussi de ce que vous voulez faire, plutôt par exemple de la déco, de la peinture ou alors de la construction ou ce que vous voulez faire, tenir comme stand par exemple le week-end. Et c'est un formulaire qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Arbre Bavard. C'est larbre-bavard.fr et sur les réseaux aussi, soit dans la bio ou dans voilà, l'appel à bénévoles qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Et alors, ce n'est pas les seules recherches que vous effectuez, puisqu'il y a aussi des hébergeurs que vous cherchez.
Oui,
c'est bien ça. Alors, expliquez-nous.
Alors, au festival, on a cette particularité de loger les artistes chez l'habitant.
et chez l'habitante, qui est une super particularité parce que ça permet vraiment de créer du lien. Et chaque année, on a des super rencontres entre artistes, et puis habitants et habitantes d'Andouillé. Enfin, c'est génial parce que ça crée des échanges inattendus. Puis ça fait qu'aussi les gens qui accueillent, ils viennent aussi au festival alors qu'ils ne seraient peut-être pas venus forcément. Et donc, ils vont voir les artistes qu'ils ont accueillis jouer. C'est assez sympa. Et donc, comme chaque année, on recherche des gens qui seraient partants pour loger et accueillir des artistes ou des techniciens sur le festival. Donc ça peut être des durées un peu différentes, ça peut être soit sur le week-end du festival, ça peut être un peu en amont pour les artistes qu'on accueille en création, parce qu'on a, on a deux créations au festival qui viennent en résidence avant. Et voilà, on cherche principalement des gens qui habitent soit à Andouillé, soit dans les communes alentours. Voilà, l'idée c'est que ça soit pas plus de 15 minutes de transport. Voilà.
Et pour vous contacter, c'est un peu de la même manière, on trouve les contacts sur le site internet, les réseaux sociaux?
Oui, c'est ça, on peut nous écrire un mail, c'est larbrebavard@gmail.com, c'est le plus simple possible. Et oui, sur le site internet, il y a aussi
il y a tout ce qu'il faut.
Même un numéro de téléphone, tout s'il y a besoin.
Super. Hein. La programmation, donc nous on en a eu un avant-goût aujourd'hui, on est ultra contents de ça. Elle va bientôt être annoncée, normalement lundi.
Oui, elle est annoncée à partir de la semaine prochaine, voilà. Doucement, au fur et à mesure sur les réseaux. Voilà. Et puis si vous voulez tout d'un coup, vous pourrez voir sur le site internet.
De quoi découvrir plus précisément, voilà, oui, quelle compagnie, quelle troupe, revoir un petit peu les différentes propositions. La billetterie va suivre dans la foulée, j'imagine.
Oui, la billetterie sera lancée ce week-end, donc vous pourrez directement prendre vos places. Oui.
Profitez de votre dimanche après-midi pour réserver vos places pour l'Arbre Bavard.
Et donc, ne pas hésiter à vous suivre sur les réseaux sociaux également. Ça permet même chaque année de se replonger dans vos propositions, même si vous serez bien évidemment de nouveau invité sur les ondes de l'autre radio. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les trois. C'était vraiment un plaisir de terminer cette semaine avec vous.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et donc, je vous propose maintenant de passer à l'agenda culturel de la semaine. Et on le commence à Sablé-sur-Sarthe avec le théâtre L'Entracte. Et alors, il est maintenant grand temps pour moi quand même de vous parler du festival Pop au Parc. Ce sera la troisième édition de ce festival cette année, qui aura lieu dans le parc du château de Sablé du 28 au 30 juin. Le festival vous propose une programmation éclectique misant sur les musiques actuelle et la culture pop. Au programme concerts, chansons, jeunes publics, animations ludiques et participatives, le festival s'adresse vraiment à tous, des plus petits aux plus grands. Au programme, vous pouvez retrouver des artistes comme Maëlle Voyou ou encore MPL, je le disais, des grands noms, voilà, qui ont dû galérer avant et qui auraient bien aimé passer à l'Arbre Bavard probablement. On reviendra plus précisément sur cette nouvelle édition la semaine prochaine dans cette émission avec Roland Bouchon, directeur de l'Entracte et directeur de l'action culturelle à Sablé-sur-Sarthe. Mais je vous invite à regarder d'ores et déjà la programmation pour vous en faire une idée. On continue avec le carré à Château-Gontier, avec La mort n'est que la mort, si l'amour lui survit, proposé par la compagnie In Situ ce soir à 20h30. Attention, cette expérience artistique ne se passera pas au théâtre des Ursulines, mais au cœur de la forêt. En tant que spectateur, vous troquerez le fauteuil rouge par un transat au milieu des arbres. C'est une pièce qui mêle théâtre et musique en revisitant l'histoire d'Orphée et d'Eurydice grâce à la voix de Laurent Menez et la compagnie sonore, la composition sonore de Gérald Berthevas, qui vous transporteront dans une grande aventure mythologique. Pour assister à cette pièce, rendez-vous à Châtelain, à l'espace Cribier. Le lieu de représentation se trouvera à environ 10 minutes de marche de ce point de rendez-vous. J'ai voulu regarder aussi ce que proposaient nos voisins Lavallois du 6x4 pour cette fin de saison. Et alors, ça se passera à la Guinguette le 11-22. Vous pourrez profiter du cadre exceptionnel que les Lavallois commencent à bien connaître avec le concert gratuit de Hayden Bestwood. Pour vous dire quelques mots sur cet artiste, il est originaire de Saint-Nazaire et son univers s'inscrit dans la pop psychédélique. C'est un artiste qui fait tout seul. Il écrit, il compose, arrange et enregistre tous ses morceaux dans l'isolement du grenier familial. Il est à découvrir donc ce soir à 19h au 11-22 à Laval. Je vous le rappelle, le Théâtre de Laval dévoile sa programmation pour la saison 2024-2025 ce soir à 19h avec la possibilité de se rendre sur place au théâtre ou de suivre l'événement en direct sur internet, dont de chez vous. Et pour terminer, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, mais ce dimanche, une autre occasion de sortir se présente à vous avec Vivement Dimanche Dernier, proposé par l'association Lundi Migraine, cette deuxième édition
aura lieu au Moulin de Coupeau à Saint-Berthevin de midi à 21h. Une programmation musicale, bien sûr, avec les artistes Blutch, Zéro Tapage, Lannick Noah et Cœur à Vif, mais aussi l'installation d'un mini-salon de tatouage sera improvisé de 14h à 20h. C'est le tatoueur au petit projet qui nous viendra d'Ille-et-Vilaine pour vous proposer des flashs entre 40 et 100 euros. Voilà, la JT du local s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à Alice, Manon et Victorine d'avoir été avec nous pour ce grand entretien. Ça continue sur nos ondes avec l'émission Temps Mort qui revient sur les sorties marquantes du rap français ce mois-ci. Ça arrive dans nos oreilles à 19h. Maintenant, un petit coup d'œil sur ce qui vous attend ce week-end. Samedi, la journée commence à 10h avec l'émission Un autre regard, proposée par le collectif Santé Mentale 53. Ensuite, une après-midi plus musicale en commençant par l'émission Rock Dreams à 13h. Et on terminera dimanche en écoutant Comment c'est loin à 19h. Et là, dans cette émission, on revient sur le rap de toute époque avec une pointe de nostalgie grâce à Amazir, Maël et Pablo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, faites ce qu'il faut et surtout, vous me connaissez, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.